Bienvenue à l'Académie de la Haute Performance. On aide les sportifs qui veulent gagner pour entrer dans l'histoire et laisser une trace. Nous sommes des anciens sportifs au service des sportifs et nous nous engageons à vous faire battre vos records personnels en un minimum de temps grâce à la dépolarisation, un process unique qui va bien plus loin que la préparation mentale. Comment améliorer son jeu avec un coach mental au tennis ?
Bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, en plus, on est avec Mathilde Armitano qui était classée top 36 France au tennis, donc c'est cool. Et du coup, qui était membre de l'Académie de Performance depuis...
Ça fait deux ans, hein.
Ouais, depuis octobre 2019.
Ouais.
Toi, justement, Mathilde, quels étaient tes blocages qui t'ont fait entrer à l'Académie de Performance?
Alors moi, c'était plutôt sur la peur du regard des autres, la peur de l'échec. Puis je sentais aussi que j'avais pas l'identité adéquate pour aller chercher les objectifs que je me fixais, en fait. Et puis, ouais, je sentais des blocages, je sentais que je m'exprimais pas en compétition comme j'étais à l'entraînement. Donc, voilà.
Ok, bon bah c'est cool.
Ouais.
Donc là, à ce moment-là, quel a été le rôle du coach mental pour toi ?
Alors, le rôle du coach mental, pour moi, bah du coup c'était toi mon coach mental, ton rôle c'était de, bah, justement de m'aider à aller mettre le doigt sur ce qui bloque, d'aller à la racine du blocage, parfois qui a rien à voir avec le tennis, en fait, et pour ensuite pouvoir performer à fond dans mon sport. Donc voilà, c'était vraiment d'identifier le blocage et puis après de le balayer, quoi.
Voilà, le coach mental, on va dire qu'il va vraiment venir faire un appui, une complémentarité avec l'entraîneur physique, puisque, comme on l'a dit la dernière fois, dans l'autre article, eh bien, parfois, on peut être au top physiquement, et pour autant, bah, mentalement, on comprend pas pourquoi il y a des interférences entre ce que j'ai vraiment envie et ce que le corps fait.
Ok. Et pour toi, c'est quoi le rôle d'un coach mental, du coup, en tennis?
Du coup, tu retournes la balle. Attends, je fais un revers. Ok, bien joué, je suis coup droit. Du coup, le rôle du coach mental, bah, comme je l'ai dit, en fait, là, on va vraiment venir intégrer une pratique qui va durer. Alors, il y a le coach mental qui est avant Académie de Performance, qui on va venir amener une pratique qui est plus sur du long terme, qui est au quotidien. Et il y a nous, à l'Académie de Performance, on va venir vraiment, comme des chirurgiens, on va venir très rapidement faire sauter le blocage au niveau identitaire pour permettre aux sportifs de pouvoir être libérés en compétition et détachés du regard des autres, détachés de la peur de l'échec pour pouvoir s'exprimer pleinement. Et bah, comme on le voit aujourd'hui à l'Académie de Performance, je faisais une petite liste des sportifs qui sont internationaux, et on va derrière souvent battre nos records personnels derrière.
Ok. Et c'est quoi les domaines d'intervention d'un coach mental de tennis?
Quels sont les domaines d'intervention d'un coach mental au tennis? Bah, justement, il va venir sur cette partie qui est déjà, un, retrouver de l'énergie. Pourquoi? Parce que des fois, dans cette gestion énergétique, il y a tellement d'injonctions, on a tellement peur, et on peut des fois avoir tellement peur de mal faire, tellement peur de décevoir les autres, que du coup, bah, on a une baisse d'énergie. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, allez, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, et si je loupe, ça va être mal, ça va être la fin du monde. Et du coup, notre niveau d'énergie baisse et on n'a plus l'énergie nécessaire pour pouvoir performer en compétition. Donc, retenez bien que chaque émotion négative, d'une part, enfin dite négative, et des émotions de peur, et des « il faut, je dois » vont baisser le système d'énergie. Pourquoi ? Parce que ça va créer au niveau du système nerveux, ça va créer de l'entropie et du désordre puisqu'on n'est plus aligné à soi. Et donc, nous, avec les techniques de dépolarisation, on va venir faire des collapses justement pour plus qu'il y ait cet espace mental qui soit lié où il faut être comme ça, je dois être comme ça, paf, on va enlever la charge émotionnelle dite négative, donc alourdie, pour pouvoir justement être reconnecté à notre mission, une scène de valeur, notre telos, comme disent les Grecs, et pour pouvoir, bah, dès qu'un être humain est reconnecté à son scène de valeur, boum, la gestion énergique, il gère son énergie normalement, il n'y a plus de répression d'énergie, et du coup, le système nerveux s'ordonne, et chaque système nerveux ordonné, dès que le système nerveux est ordonné, eh bien, on gère notre énergie plus facilement et notre énergie monte en termes de vibration.
Ok, du coup, le coach mental en tennis, il peut aussi aider à la gestion du stress, des émotions.
Ouais, bah, carrément, ouais. Surtout au tennis, si on voit qu'il y a des sports où la pression du regard des autres est super grande, il va amener des émotions de contre-performance. Il y a vraiment le tennis, enfin, pour moi, le tennis, à chaque fois qu'on a eu des gens au tennis, ils trouvaient que c'était un des sports où le regard des autres était le plus présent. Et ce regard des autres va emmener du stress qui est dit du mauvais stress, du stress plutôt négatif, et forcément, ça va emmener des contre-performances. Donc forcément, nous, justement, ce qu'on fait avec des gens au tennis, on a eu plusieurs d'excellents niveaux, et dont toi, Mathilde, comme top 36 France, bah, on va arriver là pour, voilà, enlever ce stress négatif et pouvoir être plus plus connecté à des émotions de joie, d'enthousiasme, d'excitation à l'idée d'aller au combat.
Ok. Et toi, tu penses qu'il y a un lien entre savoir gérer son stress, ses émotions et la confiance en soi?
En fait, la confiance en soi, à chaque fois, c'est le manque de confiance en soi. Donc, comme je le dis assez souvent, confiance, c'est cum. Donc, okay, c'est avec, fiance, c'est fidens. Donc, c'est confiance en soi, c'est avec la foi. Fidens, c'est la foi. Et du coup, quand j'ai confiance en moi, c'est que je crois en moi et je n'ai plus besoin de preuves pour ça. Or, chez le sportif, et notamment au tennis, vu qu'il s'identifie énormément à ce qu'il fait, en mode, ouah, c'est important que je gagne, autrement les autres vont être déçus, ou être aimé par les autres, ou pour d'autres raisons, et bien du coup, il va, vu qu'il va s'identifier à ce qu'il fait, en mode, oh, mais si je perds, je suis nul, ok, si je perds, je suis nul, alors forcément, il va y avoir un manque de confiance en soi. Alors que si, justement, on apprend un sportif à se déconnecter, ah oui, à dissocier ce qu'il fait et ce qu'il a de qui il est, alors automatiquement, bah, son niveau de confiance en soi remonte. Et vu que son niveau de confiance en soi remonte, alors il est de moins en moins touché par le regard des autres.
Ouais, carrément. Et comment est-ce que ça se déroule concrètement, un coaching mental au tennis? Est-ce qu'on commence par définir les objectifs à atteindre? Pourquoi on s'entraîne?
Coaching mental au tennis, alors ouais, la définition de l'objectif à atteindre, c'est vrai que parfois, je sais pas si tu te rappelles, pour toi, tu t'entraînes combien d'heures déjà par semaine, Mathilde?
Ouais, beaucoup, moi, c'était du 20 à 25 heures.
Je crois que c'était sur même semaine, je pense que c'était même à 25 ou 28, ouais. On avait compté.
Ouais.
Et genre, bah, forcément, en fait, des fois, quand on s'entraîne autant que ça, genre 28 heures par semaine, 25 heures par semaine, et que c'est la routine depuis des années, on peut avoir ce, mais pourquoi est-ce que je m'entraîne autant si c'est pour avoir ce résultat? Donc déjà, hein, la définition d'objectif à atteindre, c'est est-ce que l'objectif est aligné avec notre système de valeurs, ok? Et du coup, d'aller donc ce que les Grecs appellent le telos, d'être connecté à sa mission et à se dire ouais, mais en fait, je kiffe faire ça et ce n'est pas pour les mauvaises raisons. Donc je pense que c'était la première chose à apprendre, c'est que au-delà d'aller chercher l'objectif à atteindre, c'est parce que l'objectif finalement on s'en fout, c'est plutôt l'être humain que je suis en train de devenir à travers ça. Et d'autant aimer son évolution personnelle et le process et le chemin que l'objectif qui est juste la cerise sur le gâteau.
Ouais, c'est vrai que moi je me rappelle, je m'entraînais 25 heures et c'était vraiment le dogme de il faut s'entraîner quand on est de tennis de haut niveau, il faut s'entraîner au moins 20 heures. Alors, et je m'autorisais pas à m'écouter alors que je savais très bien au fond de moi que plus je m'entraînais, même plus je me désentraînais parce que j'avais pas envie au final et du coup je créais des mauvais réflexes. Alors que dès que je m'entraînais peut-être une heure, peut-être pas une heure par jour, mais disons juste 2 heures tennis et qu'il y allait à fond, bah du coup je créais les bons réflexes pour être au max de mon intensité. Alors que sinon, bah du coup je m'entraînais peut-être 4 heures, 5 heures. Et au final, bah, j'étais pas à fond, donc tu crées des mauvais réflexes. Ouais.
Cool. C'est top ce que tu dis, parce qu'on le voit souvent dans les sportifs de haut niveau qu'on accompagne, à un moment donné où ils s'autorisent à être eux-mêmes, où ils peuvent s'autoriser aussi à moins s'entraîner, du coup mieux s'entraîner et mieux performer.
Est-ce que pour toi, dans un coaching mental pour des joueurs de tennis, est-ce que tu cherches à détecter les points forts et les points plutôt à améliorer du coup?
Ouais, bah nous, en fait, dans la première vidéo du programme qui est sur l'identité, il y a un truc qui est vraiment rationnel, mais ça qu'on peut retrouver dans aussi d'autres styles que de coaching, là, c'est plus de choses, on va dire, lambda, et il y a moins la plus-value de la dépolarisation là-dessus. On va aussi voir, allez, c'est quoi, quel est ton sportif idéal, ou quel est le sportif idéal que j'aimerais être, et du coup, aller voir en fonction de ça, spécifiquement, on va dire, ok, les 4 critères, c'est quoi? C'est physique, mental, par exemple, tactique, technique. Voilà, donc j'ai ces 4 critères-là, et à l'intérieur de ça, je mets des sous-critères. Coup droit, revers, volé, quoi d'auto, tennis service.
Mm. Pas mal, hein? Smash.
Smash. Mm. Donc on va prendre les différents points, et en fonction de ça, on va par exemple s'auto-évaluer entre 1 et 10 à chaque point. Et à partir de là, bah ça va être à l'athlète de dire, ok, pour passer au niveau supérieur, lequel ça m'inspire, et ça c'est vraiment important, c'est pas lequel il faut que j'améliore, ça on s'en tape de lui, il faut que j'améliore, c'est lequel ça m'inspire d'améliorer, ok, de 1 point. Donc voilà, et du coup c'est vraiment à l'athlète de décider en fonction de la maturité qu'il a, de s'auto-évaluer et de voir sur quel point j'ai envie, et ça me fait vraiment plaisir de m'améliorer là-dessus.
Mmh. Ouais, c'est vrai que parfois on passe beaucoup de temps à essayer de lisser les points faibles, et au final on devient un peu moyen dans tous les domaines, au lieu de vraiment de focaliser sur son point fort et ce qui nous différencie, et de mettre le paquet là-dessus. Ouais. Et est-ce que tu proposes du coup des exercices sur ou en dehors du terrain?
Bah là, du coup, on va continuer dans la continuité du premier exercice, qui est vraiment important, l'exercice qui est sur et hors de terrain. À l'époque, on le fait un peu moins, ça, aujourd'hui, mais au début de l'Académie de Performance, je demandais à tous les sportifs d'avoir un carnet de notes avant les matchs, et pendant les matchs, et justement de s'auto-évaluer pendant ces critères-là. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que sur le terrain, du coup, les sportifs, donc les joueurs de tennis et les autres vont dire « je suis nul, ah, j'étais trop nul ». Et du coup, en fait, on va aller voir spécifiquement, par rapport à tous tes critères, quel point t'as amélioré. Et je me rappelle d'un jeune à l'époque que j'avais accompagné. Alors, lui, il était déjà en équipe de France. Mais c'est intéressant parce qu'au début, il faut « ah, j'ai fait un match, c'était trop nul et tout ». Donc, quand on dit « c'est trop nul », on crée une généralisation. Et on crée aussi une omission et de la distorsion de la réalité. Et donc, on a repris les notes et on a regardé, OK, où spécifiquement tu perçois que t'as pas été nul et finalement, que t'as pas été bon. Ben, finalement, on est arrivé, je sais plus sur quel point, mais on est arrivé à un point spécifique. En fait, il avait vu qu'il y avait plein de points où il était bon. Il y a seulement un point où il s'était percé nul. Un deuxième qui a été créé avec le discours interne, qui était dans la partie mentale, on avait mis le discours interne. Du coup, ça faisait 2 points sur l'ensemble des, peut-être, des 15 critères. Et du coup, en fait, juste en faisant ça, ah, en fait, j'ai juste amélioré là. Donc, c'est vraiment important, donc, les exercices que l'on propose pour quelqu'un dans le tennis spécifiquement, et on peut l'étendre à d'autres sports généralement, c'est d'avoir ces critères mental, physique, tactique, technique, de les découper en 4 encore sous-critères, et du coup, d'avoir une liste de, voilà, 16 critères, et de pouvoir s'auto-évaluer en conscience sur et hors du terrain.
Yes. Est-ce que tu mets en place des routines quand tu accompagnes du joueur de tennis?
Alors, ça, c'est drôle, parce que c'est une question que les gens qui font de la préparation mentale plus classique nous disent, est-ce que tu mets en place des routines? Et c'est marrant parce qu'il y avait un athlète avec Alexandre qui est pas dans le tennis, on en a parlé ce matin, lui disait, il avait déjà fait la préparation mentale plutôt classique, il voulait même pas entendre parler de routine. Et je me rappelle d'une fille aussi, qui était elle, pour le coup, en tennis, qui avait adolescente à 16 ou 17 ans, son papa a préparateur mental, et pareil, elle dit, moi, je veux plus entendre parler de routine. Donc en fait les routines on va les faire différemment. Un, il y a la dépolarisation qui a vraiment tout enlevé et donc de dire bah, en fait non j'ai pas besoin de routines, je peux les mettre mais c'est juste de l'optimisation. Ok? Donc c'est-à-dire que dans le programme de l'Académie de performance, une entité gagnante, les routines vont venir qu'à partir de la 6e, 8e semaine où on va vraiment mettre un accent dessus, mais c'est d'abord on va vraiment dépolariser. Et ensuite, au-delà des routines, on va plutôt créer des automatismes en place. C'est-à-dire quand je bam, 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 quand je vais rebondir la balle. Eh bien, à ce moment-là, j'ai envie d'être qui, en fait? Qui ai-je envie d'être sur ce coup? Mathilde, tu peux peut-être nous en parler. Est-ce que tu avais des routines? Je sais pas si tu te rappelles le tournoi que tu avais fait à Nantes, justement, où tu avais cartonné.
Moi je me rappelle du coup que j'avais aussi des routines avant de rentrer dans l'académie, et c'est vrai que je trouvais que ça aidait au début, mais par contre après que ça perdait son impact, parce que ton cerveau s'habitue en fait, et du coup bah, ça devient une habitude et ça a plus le même impact qu'avant, tu vois. Et ouais, du coup je m'étais mis comme routine de me demander avant chaque point qui est-ce que j'ai envie de devenir sur ce point, donc à chaque temps mort, dès que je sentais qu'il y avait besoin de me recentrer. Et je me demandais qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Et rien que le fait de me poser la question, et encore aujourd'hui, hein, par exemple, quand je vais au padel, je me demande qu'est-ce que j'ai envie de devenir, ça me permet de remettre de l'intention au lieu de subir mon état, tu vois. Du coup, c'est moi qui choisis qu'est-ce que je deviens, c'est pas moi qui est en train de subir mon état émotionnel du moment. Et donc, ouais, à Nantes, c'était, ouais, je deviens une femme excellente, une femme qui se détache du regard des
Ouais,
autres. Ouais.
bien.
Ouais, c'est ça.
Cool. Et du coup, pour les petits matchs d'entraînement, tu vois là, qui est plus placé à tennis, qu'est-ce que tu conseilles justement par rapport aux petits matchs d'entraînement dans le cadre du coaching mental au tennis?
Moi, je me rappelle, j'avais un entraîneur qui nous mettait vraiment en situation de stress à l'entraînement, voire même plus qu'en match, et ça m'avait bien servi. Donc, je me rappelle qu'il y avait un exercice, par exemple, dès qu'on menait 40-0, si on perdait le point, on perdait le jeu. Donc, ça nous amenait vraiment à ne pas se relâcher, en fait. Et je trouvais ça super intéressant, mais du coup, c'était vraiment stressant, même plus qu'en match. Et du coup, quand j'arrivais en match, et du coup, je menais 40-0, je perdais le point, tu vois, c'est cool, du coup, il y a juste 45 et je mène encore. Alors qu'à l'entraînement, du coup, quand je menais 40-0, je perdais, bah, je perdais, et ça me rendait dingue. Et donc, je trouvais ça intéressant comme approche de parfois mettre même plus de stress à l'entraînement qu'en match. Et comme ça, hein, quand tu arrives en match, bah, c'est facile, du coup. C'est moins stressant au final.
Ok, ouais, très intéressant. Et justement, est-ce que tu avais des phases d'ajustement après les premières compétitions?
Ensemble, est-ce qu'on a eu des phases d'ajustement après les premières compétitions? Je sais pas. Je saurais pas répondre à cette question.
Ouais, alors en général, en effet, avec le recul, ça fait 2 ans que j'avais le voir, que je vais y répondre. En fait, nous, ce qu'on va faire, justement, c'est qu'on va fixer souvent l'intention principale, l'objectif principal. Alors pour certains, ça va être les Jeux Olympiques, pour d'autres, ça va être un tournoi, un gros tournoi. On va prendre le truc qui fait le plus kiffer. Alors, s'il n'y en a pas, des fois, ça peut être juste à très long terme, être professionnel pour des gens qui sont plus jeunes. Et du coup, en fait, en fonction de ça, on va dire que chaque match que l'on est en train de faire est une occasion de s'ajuster pour les prochaines compétitions. C'est-à-dire que nous, après chaque compétition, on va vraiment aller extraire le maximum de valeur de tout ce qui a été appris de cette compétition et dire, OK, qu'est-ce que par rapport à tous les critères, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer. Si c'était une défaite, on va aller voir quels étaient tous les... Je me rappelle justement avec le même jeune que je disais, lui, il avait au bout de 1 mois d'emploi, mais c'était enflammé en mode, ouais, j'aurais plus jamais de problème mental, et là, il a pris une bonne cartouche. Donc, dès qu'on s'exagère, et ben derrière, on prend une claque. OK? Enfin, c'est qu'on augmente les probabilités de prendre une claque. Et du coup, lui, quand il a regardé tous les bénéfices d'avoir perdu, à court terme, ah, bah, à la fin, il a dit, oh, en fait, j'ai rien perdu, j'ai perdu le résultat sous cette forme, mais j'ai gagné plein de choses sous une autre forme. Et donc, à chaque fois, en fait, d'aller extraire la valeur de chaque défaite, et même de chaque victoire, de se forcer, hein, quand j'ai gagné, à aller voir c'est quoi, quels sont les inconvénients, qu'est-ce que je peux améliorer, ça permet de s'ajuster en permanence. Pourquoi? Parce que dès qu'on va gagner, on va tendre à avoir moins l'occasion de se remettre en question, et du coup, moins l'occasion d'aller, bah, le système nerveux se met en mode repos, entre guillemets, et quand on est en train de perdre, alors on est challengé. Donc, c'est important dans les deux cas d'aller voir soit les inconvénients d'une phase, quand on voit qu'on est un peu en mode repos, soit les bénéfices de l'autre quand on a perdu pour aller extraire toute la valeur de cette défaite et la transformer en apprentissage. Comme le dit Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Ouais, et c'est vrai que là-dessus, je trouve que tu as un exemple qui est vachement parlant. Bon, c'est pas du tennis, mais c'est avec Laura quand elle finit première, c'est ça, de la phase de qualif.
Ouais, avec Laura Tarantola, donc qui est médaillée aux Jeux Olympiques, et ça elle le dit en conférence, du coup c'est vraiment intéressant. Donc ce coup-ci de l'aviron, c'était pas du tennis, mais le principe est le même, c'est-à-dire que elle fait première au tour de poule aux Jeux Olympiques, et du coup bam, on arrive, ah tiens, j'ai un peu de mal à m'en mettre dedans et tout. Et en fait directement, moi je la vois en mode, en fait je le sens aujourd'hui au niveau énergétique quand quelqu'un s'exagère un petit peu. Et du coup, là, je vois le système nerveux qui était vraiment au repos. Et du coup, je me suis dit, OK, quels sont les inconvénients pour toi d'avoir fait première entre le tour de poule et la demi-finale? Je fais, bah, je me suis moins entraîné, je me suis moins remis en question, etc. Et je regarde quels sont les bénéfices pour tes concurrentes d'avoir été derrière toi au tour de poule. Ah, bah, elles ont faim, elles sont remis au travail, et tout. Et là, paf, directement à la switcher. On a remis un petit peu de peur, un petit peu de pression. Paf, pour rééquilibrer les perceptions. Pour être vraiment centré et être vraiment au seuil de soutien et challenge au même degré, de certitude et incertitude, et je sais que ça va faire en même temps, wow, attends, bouge-toi encore. Donc, voilà.
Ouais, moi c'est vrai que c'est un truc au tennis où à chaque fois, à chaque match, je suis restée hyper vigilante là-dessus. Parce que au tennis, on peut mener et puis très facilement après le match peut très vite tourner. Et du coup, parfois, bah, je me relâchais et je restais hyper vigilante là-dessus, sur vraiment rester en mode actif, quoi. Et en fait, quand je menais, des fois, je m'imaginais que j'étais menée pour mieux jouer, tu vois. Sinon,
Oui.
je me relâchais. Ouais, il faisait des petits stratagèmes comme ça, c'était marrant. Question d'après, du coup, quel bénéfice on peut tirer d'un travail mental au tennis?
Ouais, ben là les bénéfices, enfin tu pourras confirmer, mais déjà ça va être un, arrêter de s'énerver pour rien, arrêter de péter des raquettes, parce qu'au tennis, je sais que ça casse de la raquette des fois, donc arrêter de s'énerver pour rien, être beaucoup plus lucide, beaucoup plus centré, se détacher du regard des autres, en avoir rien à faire, de rien à faire, de rien à faire, de rien à faire, de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils disent, voilà, et ouais, se détacher du regard des autres et d'être plus heureux surtout, et de reprendre du plaisir à la compétition. Et du coup aussi, le paradoxe, c'est de sortir aussi du dogme, il faut s'entraîner 25 heures par semaine pour percer, et de pouvoir s'autoriser à mon sens, à aller s'entraîner 15 heures, 17 heures max, 18 heures, et finalement aussi bien percer, quoi. Qu'est-ce que tu avais tiré du...
La dépôt, tu veux dire?
Ouais, du travail mental, tennis.
Ouais, après, moi je sens que maintenant que ça fait plus de 2 ans, et du coup c'est vraiment intégré, donc je trouve ça dur d'en parler, mais je sens que ouais, je suis capable de plus voir les dynamiques qui jouent, et donc justement, ça dont je te parlais, dès que je me relâche, et ben, à la seconde, ben, le match tourne en fait, dès que je baisse la garde. Et ah oui, aussi, j'avais un truc qui était intéressant, c'est que je m'imaginais que j'étais à la boxe. Aussi, parce qu'au tennis, c'est vrai que quand on mène, eh ben, on peut se faire remonter, mais c'est pas un sport vital. Alors qu'à la boxe, si tu mènes et que tu baisses ta garde, eh ben,
Tu peux prendre
tu prends un KO. Alors qu'au tennis, non, en fait, bah, t'as le temps. Et du coup, je me dis que j'étais à la boxe et que je pouvais prendre une droite à tout moment. Donc ça,
une
mais
bonne
oui, sinon,
note.
ça, bah, ça m'a aidé, ouais, avec la frustration. Ouais, je me trouve beaucoup plus calme sur le terrain aujourd'hui. Ouais, carrément. Savoir se focaliser sur les points positifs. Ça, c'est important.
Ouais, du coup, c'est vrai qu'on a vite tendance à dire, et là, ça va regrouper un peu ce qu'on a dit plus haut, c'est qu'on a vite tendance à oublier ce qu'on a fait de bien. Donc, rappelez-vous, dès que vous dites « je suis nul » ou « le match était pourri », boum, vous êtes en train de distordre la réalité, ok? Vous êtes en train de faire une distorsion de la réalité. Et donc, c'est important, à ce moment, de revenir à son cahier au début et de noter, ok, sur quel point spécifique bah, j'ai été bon et quel point spécifique j'ai envie d'améliorer. Donc, point positif, point négatif, c'est surtout, enfin, les deux, enfin, quand on est initié à la dépolarisation, on va savoir que dans chaque positif, on peut trouver du négatif, dans chaque négatif, on peut trouver du positif. Donc, c'est pas le point qui est positif ou négatif en lui-même, c'est surtout le jugement que je lui accorde qui le rend plus positif ou négatif. Mais un point, c'est un point. Sur positif ou négatif, c'est ce jugement par rapport à un contexte, une position, un jugement de valeur, donné qui rend, et qui fait exister en tant que tel positif, et dès qu'on fait exister en tant que tel un point positif, bah, ça veut dire qu'on crée des points négatifs. Et plus j'ai envie de me dire, ah, c'était bien, c'était positif, et d'être attiré que par le positif, plus je vais être en ressentiment du négatif. Donc, alors que plus on est neutre, plus on peut se servir de tout ce qui arrive comme des feedbacks en étant neutre émotionnellement et simplement grandir en étant aligné avec notre système de valeurs.
Ouais, puis j'aime bien aussi ce que tu dis sur le côté, enfin, ne pas se demander si c'est une pensée positive ou négative, mais plutôt si elle est active ou passive. Et parfois, on peut dire quelque chose de négatif qui peut être jugé comme négatif alors que c'est hyper actif. Et au final, si parfois on se force à penser positif, et ben on s'empêche d'utiliser la puissance parfois du négatif, tu vois, genre mais je dois faire mieux ou je sois meilleur, mets là-dedans. Des fois, ça peut être perçu comme négatif, mais c'est aussi une manière de bah, de se remettre dedans. Alors si on se dit ah c'est pas grave, on peut dire bah c'est positif, mais au final, tu t'empêches d'avoir l'énergie qu'amène parfois le négatif aussi.
Ouais, et du coup, finalement, ce qui était positif à court
Court
terme
terme.
devient négatif à long terme. Alors que ce qui était perçu comme négatif, oh, bah, je suis plus de merde, je vais m'améliorer, perçu de négatif par les bisounours à court terme peut devenir positif à long terme.
Ouais. Est-ce que pour toi c'est important d'avoir plusieurs schémas de jeu quand vous tennis?
Là, c'est plus de la tactique, donc on est plus sur un discours de vraiment de tacticien et qui va être propre, je pense, au rapport entraîneur-coach. Mais en effet, nous, dans la plaque mentale, on va dire, OK, bah, si ce point A, si ce plan A fonctionne pas, quel est le plan B, quoi? Et je me rappelle que moi, à l'époque, en boxe, on avait très souvent le point plan A, on fait ça, plan B, on fait ça, et mon entraîneur avait plan C, tu lui casses la gueule. Donc là, ça peut être aussi ça. Donc là, c'est à vous de voir avec l'entraîneur, c'est point A, plan A, c'est ça, plan B, c'est ça, plan C, c'est on déchire tout, quoi. Et on y va. Et des fois, c'est bien aussi d'avoir un schéma qui s'autorise à être freestyle et Jean Volagnac. Et ça, des fois, c'est incroyable. Le nombre de fois, on en parle avec des sportifs où des fois, ils ont fait des coups, c'était du n'importe quoi, mais il y avait la fougue du débutant, enfin la fougue en tout cas du jeune, qui fait que bah ils ont tout déchiré sur un coup alors que c'était hors tactique. Hors plan et ça a fonctionné. Donc avoir en tête plusieurs schémas en jeu, je pense que c'est bien sûr un bon puisque ça permet d'avoir le choix et se donner aussi le choix de pas avoir de schéma et d'être en mode je fonce, je lâche les chevaux, mais pas mal aussi. Il est intéressant ça.
Ouais. Est-ce que tu penses que c'est important de savoir s'encourager?
Au choix entre se dire allez, je suis meilleur, je vais y arriver ou oh, je suis une grosse merde, je risque pas d'y arriver. Je pense que en effet c'est important d'être capable d'aller s'encourager dans le sens où quand on a un petit coup de mou, de se dire ok bah attends c'est ça ton objectif, ou alors quand on voit qu'on a de la distance, de se dire non mais en fait je m'en fous de la distance que j'ai, moi ce que je veux c'est être meilleur, d'être capable de s'encourager pour quand je suis en train de gagner ou perdre, d'être capable de se mettre un petit coup pour se concentrer sur qui j'ai envie de devenir afin d'être dans une éternelle recherche de dépassement de soi et d'être meilleur à travers chaque compétition.
Et prochaine question, c'est plus pour les coachs. Comment devenir coach mental au tennis?
Ouais, coach, encore une fois, pour être coach mental au tennis, on peut aller faire plusieurs cursus qui sont classiques, hein, que ce soit des diplômes universitaires, que ce soit les licences en STAPS, que ce soit plusieurs formations, il y a la méthode Target, moi à l'époque que j'avais suivi, enfin surtout en livre. Et à la fin, je pense qu'une fois qu'on a fait le tour de ces formations, on va voir qu'il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose avec des athlètes qu'on n'arrive pas à débloquer. Il va rester un petit grain de sable qu'on n'arrive pas à aller déloger chez eux. Et là, à mon sens, aujourd'hui, se former en dépolarisation est la formation la plus complète qui existe en francophonie pour pouvoir accompagner des athlètes de haut niveau, que ce soit des athlètes de haut niveau au tennis ou dans d'autres sports. Pourquoi ça? On en parlait ce matin en live avec Alexandra, justement, qui est un international grand athlète. On était en live aussi ce matin. Et ce qu'il disait, il a fait de la préparation mentale classique jusqu'ici, hein, ce qu'on appelle sophrologie, auto-hypnose, hypnose, et il n'avait pas les résultats qu'il a eu en dépolarisation. C'est-à-dire que nous, en dépolarisation, on va vraiment travailler sur l'identité de manière vraiment rapide. Et donc, si vous êtes coach mental au tennis, que vous voulez aider réellement vos athlètes, former en dépolarisation va vous permettre de les aider de manière rapide, durable, fiable, prédictible. Et aussi de voir la macro et de pouvoir connecter tous les points facilement plutôt que d'être localisé juste par rapport à un espace, un temps, un contexte donné.
J'espère que tu as aimé ce podcast et que notre message t'a inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne pas louper les prochains et laisse-nous 5 étoiles, ça nous ferait vraiment plaisir. Et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens.